Là, tu as abordé la qualité, dans le fond, du produit final que vous échangez avec les étudiants. Et tu transites vers la qualité de la relation prof-étudiant. Est-ce que les nouvelles technologies vous permettent justement d'aussi améliorer cette qualité-là?
Mais aucun doute, en tout cas, en ce qui concerne les heures de disponibilité qu'on passait au bureau, où souvent on attendait que des élèves viennent nous voir. Et qu'on ne sentait pas, ou en tout cas je ne sentais pas, que c'était l'endroit où je pouvais être le plus utile à ce moment-là, parce que même si je pouvais faire d'autres choses à mon bureau en attendant, je ne pouvais jamais me permettre d'aller chercher telle chose à la bibliothèque ou aller faire telle ou telle chose. Donc, je passais du temps un peu improductif au bureau, alors que c'est vrai qu'avec l'échange avec les élèves là, par courriel, ça permet un échange. Et les élèves l'utilisent très, très bien, je trouve. Tu sais, c'est des questions précises qui les aident beaucoup. Mais c'est sûr que ça demande, tu sais, de vérifier là, le courrier à tous les jours. Hein. Enfin, pas forcément la fin de semaine, là, mais en tout cas, certainement à tous les jours. Et de prendre le temps de répondre. Donc, ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui est important, qui les encourage, je pense, aussi beaucoup. D'avoir un rapport comme ça, parce que la plupart, ils ne venaient pas, même quand ils avaient une question, ils venaient pas.
Mais en fait, si je peux me permettre d'ajouter, c'est un rapport qui est vraiment singulier, ça. Parce que c'est une chose de communiquer avec une classe, avec un groupe, c'est une chose de rencontrer des étudiants au bureau ou après le cours individuellement, et c'en est une autre de communiquer par courriel. C'est comme si, et je m'en suis souvent passer la remarque, c'est comme si on entrait dans la sphère du privé de l'étudiant. Le rapport au courriel, on est là, puis on n'est pas là. Il y a un caractère qui est beaucoup plus, comment dirais-je, familier, tout en étant impersonnel, parce qu'il y a cette distance créée par le virtuel. Mais il y a cette proximité aussi, où il y a une petite communication, très, très limitée, mais une petite communication où, finalement, l'étudiant sent que, l'enseignant, c'est pas parce qu'il est à son bureau, non, il va prendre le temps de lire son courriel et d'y répondre adéquatement. Et moi, je leur dis toujours, écoutez, sur semaine, je vous promets là un retour à peu près dans 24 heures. Donc, il y a aussi un rapport très dynamique dans cet échange. Pas le week-end, mais la semaine, et je fais un effort pour respecter cet engagement, parce que je me dis, de fait, ça permet d'ouvrir quelque chose qui n'existait pas avant. Et là, il y a quelque chose de magnifique.
OK. Donc, les étudiants, ils ont comme avec le courriel et les autres moyens de communication technologiques, il y a une forme de distance, mais aussi pour eux, c'est comme une ouverture émotive, affectifs qui n'auront pas nécessairement un groupe, mais par un drôle de hasard, c'est que les technologies permettent de façon impersonnelle de s'ouvrir, d'aller plus du côté des émotions, de plus des choses qu'on a.
Je ne sais pas si c'est les émotions, mais c'est il y a une ouverture à poser des questions à un prof par courriel qui n'aurait pas ni en classe, ni même de prendre la peine de venir au bureau et de lui poser directement. Mais est-ce que c'est un échange où les émotions sont plus présentes? Ça, je dirais pas ça nécessairement. Non. C'est vraiment axé sur un besoin précis. Et il y a peut-être des mots sympathiques là, qui peuvent être dits là, de part et d'autre, là, mais c'est pas d'abord et avant tout au niveau des émotions.
Il faut voir que l'étudiant actuellement, notre étudiant au niveau collégial, là, c'est un étudiant qui est totalement différent de ce qu'il pouvait être il y a 20 ans. Ce à quoi il est confronté dans sa vie, premièrement, le niveau des technologies, ce niveau qu'il dessert, qui lui sert, là, que je veux dire, c'est pas négatif, ce niveau on ne peut pas imaginer cet étudiant d'il y a 20 ans actuel. C'est son temps, sa façon de gérer son temps, sa façon de s'organiser, sa façon de travailler et d'apprendre, c'est sûr que c'est différent. C'est certain. Alors, moi, je me dirais par rapport aux nouvelles technologies, personnellement, moi, je voyais ça comme ça va de soi, je suis mes étudiants dans ce qu'ils sont pour pouvoir continuer à bien faire passer ma matière. Je suis allé peut-être plus loin que j'imaginais là dans la production et dans le travail au niveau des nouvelles technologies, mais à coup sûr les étudiants apprécient beaucoup. Quant au rapport sensitif, je dirais par le biais du courriel essentiellement, ben je pense que ça varie selon le type de rapport qu'on a avec nos étudiants. Si on a un rapport qui est plus familier, en classe, plus, et je le dis sans connotation péjorative, il est évident que ça se ressent dans les courriels aussi. On le voit par... Mais je fais aucune remarque aux étudiants sur le niveau de langage qu'ils utilisent dans les courriels. Moi, j'utilise un langage qui est neutre, qui n'est pas familier, mais je fais... eux vont être parfois familiers, parfois ne le seront pas, et ça varie justement des étudiants. Mais quand je disais qu'on entre dans leur sphère privée, c'est qu'il faut comprendre que... et ils chattent, ils correspondent beaucoup, et on entre comme dans un univers auquel normalement les enseignants, l'école, n'avaient pas accès. Et c'est là la différence, à mon avis, dans ce rapport qui est plus étroit. Et je le considère donc plus familier pour ça.
OK. Dans le sens où c'est eux qui maîtrisent déjà un univers culturel qui n'était pas le nôtre, puis ni celui des étudiants il y a 20 ans. Mais est-ce qu'en termes d'apprentissage, ce nouvel environnement culturel-là, les nouveaux outils technologiques qui sont partis de cet environnement-là, favorisent l'apprentissage des étudiants? Ou vous, juste dans votre discipline, est-ce que vous croyez que les étudiants aujourd'hui apprennent mieux l'histoire que l'étudiant de 20 ans?
Certainement pas.
C'est donc là, moi je dirais, c'est un peu comme la théorie de relativité d'Einstein. C'est que eux, ils changent et nous, on change. Et c'est très difficile de dire... de comparer ces deux situations-là.
Mais il y a des choses comparables. Hein. Tu y faisais mention tout à l'heure. C'est-à-dire, quand j'ai dit certainement pas de façon assez subite, ce que je veux dire, c'est que je ne crois pas qu'ils sont plus intelligents parce qu'il y a des nouvelles technologies. Je ne crois pas qu'on les rend, entre guillemets, plus intelligents. Cela étant dit, c'est là-dedans qu'on baigne actuellement. Et ça facilite énormément, à mon avis, à court, moyen, long terme, l'apprentissage. Mais, si je peux me permettre justement une avancée, je pense que le danger des nouvelles technologies, on parlait qu'on travaillait avec des textes soutenus en sciences sociales, en histoire, on travaillait avec des textes où il y avait une argumentation qui était bâtie sur des paragraphes, et la faiblesse autour des nouvelles technologies, je dirais, c'est de jouer beaucoup plus sur le flash. Hein? C'est un gros titre, c'est un petit enseignement en quelques mots. Et comme nous, qu'on tente d'avoir un fil continu qui est complexe, nos étudiants ont plus de difficultés. Et moi, j'attribue ça, je relis ça au monde dans lequel ils sont, pour beaucoup. Suivre une argumentation d'un auteur sur 10 pages, 12 pages, 15 pages, 20 pages, moi, je pense pas qu'ils ont plus de facilité. Même, je crois, au contraire, qu'ils ont plus de difficultés que nos étudiants avant. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas développé d'autres habiletés, ça, qui sont fort appréciables.
Mais généralement, juste en termes de bagage de connaissances, les étudiants d'aujourd'hui, parce qu'ils ont accès à toutes sortes de formes d'informations, est-ce que leur bagage, justement, on dit qu'en termes d'argumentation, tout ça, tu fais un texte suivi sur 10-15 pages, puis tu es capable de suivre la pensée de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, de baigner dans un environnement où eux autres sont comme dans un océan de connaissances, là, qui sont pas nécessairement tous liés les unes aux autres, aussi bien tricoter comme dans un texte d'argumentation. Mais ça, c'est pas une autre forme d'intelligence ou une autre forme de technologie intellectuelle qui va supplanter l'ancienne ou est-ce qu'il n'y a pas aussi une révolution à ce niveau-là où c'est comme utopique de penser que à cause des technologies, les gens finissent par développer une appréhension du monde, dans le fond. Parce que c'est ça, c'est d'appréhender le monde à travers les connaissances.
Peut-être à très long terme, on peut dire qu'il va y avoir un changement dans les manières profondes d'approfondir ou d'appréhender le monde. Mais moi, je ne suis pas du tout prêt à accepter, à sacrifier, disons, une réflexion approfondie, linéaire, logique, qui se développe avec des arguments, tout ça, à court terme en tout cas. Et que c'est ça qui fait problème en ce moment. Et c'est vrai que quand j'enseignais au début avec les textes, d'abord, c'était des cours magistraux en très, très grande partie. Hein, et j'avais pas l'impression, moi, mes souvenirs quand j'étais à l'université, c'était des cours magistraux de 3 heures. Et quand je venais ici, je donnais des cours magistraux de 3 heures. Et bien sûr, il y avait une pause. Bien sûr, des fois, là, j'avais d'autres activités, là. Mais en gros, on s'attendait à un cours normal. C'était un cours magistral de 3 heures. Et là, aujourd'hui, c'est impossible, impossible. C'est de plus en plus difficile aussi de leur donner des textes. Mettons, comme dit Louis, là, un texte qui est un auteur qui développe un argument pendant 15 pages. Donc, ça, c'est des choses qui posent problème. Je pense qu'il y a d'autres choses, par contre, qu'on fait mieux, entre autres avec les nouvelles technologies, et surtout qu'on vérifie mieux qu'on arrive à les transmettre. Hein, parce qu'on avait ces grands cours, ces grands exposés, c'est des dissertations que les élèves nous écrivaient, mais dans le fond, exactement qu'est-ce qu'ils avaient appris, ça restait beaucoup plus flou. Donc, au niveau des technologies d'apprentissage, de mesures, tout ça, peut-être qu'il y a des choses qui se font beaucoup mieux. Mais, en tout cas, en gros, là, je dirais, on n'a pas le choix, de toute façon. Il y a des changements qui se font. On peut plus, et c'est pas comme si on pouvait dire, bon, ben là, est-ce que je vais garder une méthode puis ne pas accepter l'autre? Tu sais, il faut aller avec l'autre. Mais il faut être conscient qu'on est en train de sacrifier des choses. Et qu'est-ce qu'on peut conserver de ce qui était bon dans ce qu'on faisait avant?
D'essayer de marier les deux, dans le fond.
Voilà. Oui.
Mais ça, c'est pas simple, là, parce que aussi, avec les nouvelles technologies, s'est développée toute une approche pédagogique là, qu'on appelle le constructiviste. Est-ce que ça vient jouer dans votre approche des cours ou est-ce que vous arrivez à arrimer les technologies avec ces nouvelles approches-là qui se veulent plus, dans le fond, orientées vers l'apprentissage où les étudiants doivent être plus actifs?
Un petit peu de misère avec ça, personnellement. Un petit peu de misère dans le sens que... Si on travaille, partons d'une réalité concrète, là, on veut enseigner, par exemple. On veut que les étudiants soient sensibles à une réalité temporelle, puis une réalité conceptuelle entourant le développement de l'Occident au 15e, 16e, 17e siècle. L'étudiant, par lui-même, est capable de faire des bouts de chemin. Mais il a besoin aussi qu'on place un cadre plus général auquel il va se confronter et par la suite, il peut enrichir sa lecture, sa compréhension par des exercices, par des lectures supplémentaires, par le visionnement d'un extrait d'un film historique qui lui permet de visualiser des réalités plus complexes. Mais cette mise en forme-là, j'ai toujours à l'esprit que l'étudiant, il ne peut pas par lui-même tout placer ça. J'ai un petit peu de misère avec ça. D'autant plus que il faut pas se leurrer. C'est le cadre qui bien souvent supporte l'action. C'est la mise en forme du cours, c'est les obligations créées par ce cours qui supporte l'action de l'étudiant. Même si ils peuvent être tout à fait curieux, ils peuvent être tout à fait, même parfois intéressés et fortement intéressés par la matière, c'est parce qu'on aura placé ce cadre-là qu'ils vont aller vraiment travailler dedans. Ça, à mon avis, ça se remplace difficilement par une approche qui mise essentiellement sur l'acteur actant.